Chapitre 7. Elle revient à l'amour parfait dont elle avait commencé à parler. Revenons à l'amour spirituel. Qu'il est bon d'avoir les unes pour les autres. J'ignore si je le comprends bien, du moins je ne crois pas nécessaire d'en parler longuement, car un petit nombre seul le possède. L'âme à qui le Seigneur le donne a le devoir de l'en remercier. C'est là le signe d'une haute perfection. J'en dirai donc quelques mots en espérant que ce sera de quelque utilité. Tous ceux qui désirent la vertu et cherchent à l'acquérir vont vers elle quand on la leur présente. Plaise au Seigneur que je comprenne cet amour et puisse bien en parler. Lorsque Dieu a fait clairement voir à une âme le peu de valeur du monde, ainsi que l'existence d'un autre monde, la différence existant entre les deux, l'éternité de l'un, le vide de l'autre, quand il lui apprend ce que c'est que d'aimer le Créateur et la créature, lorsque l'âme a compris cela, non seulement par son intelligence ou sa foi, mais par son expérience, ce qui est différent, lorsque l'âme voit ce qu'elle gagne à aimer son Créateur et ce qu'elle perd à aimer la créature, lorsqu'elle a compris les nombreuses vérités que Dieu enseigne à ceux qui s'abandonnent à sa conduite dans leur raison ou lorsqu'il daigne instruire, alors elle aime plus parfaitement que ceux qui ne sont pas arrivés à ces états. Il vous paraîtra peut-être utile, mes sœurs, de vous entretenir de ce sujet. Vous me direz toutes que vous savez cela. Plaise à Dieu qu'il en soit ainsi. Si vous savez cela, vous voyez que je ne me mens pas quand je dis que l'âme, illuminée de la sorte par Dieu, vit d'un amour purement spirituel. Les âmes que Dieu élève dans cet état sont des âmes généreuses, des âmes loyales. Elles ne recherchent pas le bonheur à aimer quelque chose d'aussi méprisable que notre corps, malgré la grâce et les faveurs dont ils sont ornés. Elles pourront les trouver agréables à regarder se sentir disposées à les louer, le Créateur. Elles ne les aimeront pas pour leur avantage extérieur, car ce serait aimer le néant. Elles en auraient honte et n'oseraient plus dire à Dieu qu'elles l'aiment. Mais me direz-vous, ces personnes ne seront pas aimées ni rendre l'affection qu'on leur porte. Je vous dirai, peu leur importe qu'on les aime. Quelquefois, si par une impulsion naturelle, elles se félicitent de l'affection qu'on a pour elles, elles reconnaissent bientôt que cela est une folie. Ce sentiment n'existe pas lorsqu'il s'agit de gens qui peuvent leur être utiles par leur science ou leur raison. Toute autre affection leur est à la charge. Elles savent qu'elles n'en tireront aucun profit et risquent au contraire d'en subir de graves torts. Elles gardent cependant de la reconnaissance pour ceux qui les aiment et les recommandent à Dieu. Elles savent que l'amour qu'on leur donne vient du Seigneur, car il leur semble qu'il n'y a en elles-mêmes rien qui soit digne d'être aimé, et se disent que si on les aime, c'est parce que Dieu les aime. Notez que si nous recherchons l'affection des autres, c'est que nous y espérons quelque intérêt ou une satisfaction personnelle. Les personnes parfaites ont déjà foulé aux pieds tous les biens et tous les plaisirs que le monde peut leur offrir. Elles ne peuvent goûter de joie qu'en Dieu, ou dans des conversations qui ont Dieu pour sujet. Quel avantage peut-elle trouver à être aimée? Dès qu'elles se souviennent de cette vérité, elles rient d'elles-mêmes et de la souffrance ressentie jadis quand elles se demandaient si leur affection était payée de retour. Il est évident qu'il nous est naturel de souhaiter d'être aimé. Mais lorsque vous recevez cette récompense, vous reconnaissez qu'elle n'est qu'un fétu de paille, qu'une poussière que le vent emporte. Quand on nous a beaucoup aimés, qu'en reste-t-il? Ceux qui ne savent qu'aimer Dieu aimeront beaucoup plus, car leur amour est plus vrai, plus puissant, plus utile. Enfin, c'est l'amour. Vis-à-vis du Créateur, ils sont plus portés à donner qu'à recevoir. Leur amour est vraiment digne de ce nom, alors que les sentiments bas de la terre ne le méritent pas. Sur quoi alors se porte l'affection? Ils ne s'arrêtent pas au corps, ils examinent l'âme et recherchent ce qui peut être aimé. Leur amour ne craint aucune fatigue. Ils veulent que leur amour dure, mais il faut que le prochain possède un grand amour de Dieu. Les âmes à qui le Seigneur a fait connaître sa véritable sagesse ne jugent pas, n'apprécient pas, au-delà de sa valeur, l'amour qui finit avec la vie. Si ces âmes aiment le prochain, elles désirent qu'il aime Dieu et sont prêtes à sacrifier leur vie pour lui procurer le moindre bien. Ô précieux amour, que le prochain s'applique à imiter le prince de l'amour, Jésus notre bien. Chapitre 8. Sur l'amour spirituel et quelques avis pour l'obtenir. C'est une chose extraordinaire que de voir l'ardeur de cet amour. Que de larmes, de pénitences, de prières qu'il y réclame. Quel empressement auprès de ceux qu'il croit puissants sur le cœur de Dieu pour que la personne aimée soit recommandée à sa miséricorde. Quel désir continu de son avancement. Pas de repos tant qu'elle ne fait pas de progrès. Et si, ayant constaté en elle une amélioration, il la voit reculer un peu, il leur semble impossible de goûter le bonheur en cette vie. Quoi qu'elle fasse, cette personne est poursuivie par cette préoccupation. Elle craint la perte de cette âme qu'elle aime tant et redoute d'en être séparée à jamais. Elle méprise la mort temporelle. Elle ne veut pas se lier à une chose qui disparaît au moindre souffle et qu'on ne peut retenir. Cet amour, je le répète, est sans le moindre sentiment d'intérêt. Tous ses vœux sont de voir cette âme remplie de biens célestes. Voilà où se trouve le véritable amour, et non dans ses misérables affections terrestres. Je ne parle pas de l'amour mauvais. Dieu nous en préserve, c'est un enfer. Nous n'avons pas à en dépeindre l'horreur. Pour nous, mes sœurs, nous ne devons ni dire son nom, ni admettre qu'on en parle devant nous, par moquerie, n'autoriser une conversation sur un amour pareil en notre présence. Car y prêter seulement le bout de l'oreille ne peut que nuire à l'âme. L'amour dont je parle n'est point défendu. C'est celui que nous éprouvons les unes pour les autres, pour les parents, pour les amis. Nous craignons que la personne aimée ne meure. A-t-elle mal à la tête? Nous en sommes désolés. Si elle est dans l'épreuve, notre patience disparaît et ainsi de suite. L'amour spirituel est tout autre. Sans doute, il peut ressentir un mouvement de sensibilité naturelle, mais aussitôt la raison scrute si les épreuves où se trouve la personne aimée sont tournées vers sa perfection, si ses vertus augmentent. Il prie Dieu de l'aider à gagner ses mérites. Est-elle résignée? Il n'a plus de peine, mais se console. Mieux, il accepterait volontiers ses épreuves plutôt que de la voir souffrir, s'il le pouvait. Il lui laisserait tout le mérite et le profit de la souffrance, mais il ne perd ni la paix ni le calme. Je le répète, cet amour ressemble à l'amour infini que Jésus a eu pour nous. Ceux qui aiment ainsi procurent un très grand bien. Ils prennent pour eux toutes les croix et désirent que le prochain en retire le profit sans en subir la peine. Les personnes soumises à cette amitié en tirent de grandes richesses. Ils leur obtiendront de Dieu, comme sainte Monique le tient pour saint Augustin, la grâce de suivre la même voie, puisqu'ils s'avancent vers la même patrie. Ils ne peuvent rien leur dissimuler. Ils les avertissent dès qu'ils les voient quitter le droit chemin ou commettre la moindre faute. Ils ne sauraient agir autrement. Tant qu'elles ne seront pas amendées, ils ne recourront ni à la flatterie, ni ne l'excuseront. Ils briseront eux-mêmes l'amitié si ces personnes ne se rétractent pas. Car ils ne pourront tolérer une pareille conduite. Et c'est justice. Il y a des deux côtés. Une guerre incessante. C'est cet amour que je voudrais voir en vous. Bien qu'il n'atteigne pas cette perfection dès le début, il s'améliorera avec la grâce de Dieu. Un peu de tendresse naturelle pourra sans doute s'y mêler. Mais cela ne vous nuira pas. À condition que ce soit en général. Il est bon et même indispensable d'être sensible aux épreuves et aux infirmités des sœurs, quoi que ce soit peu de choses. Il peut même arriver qu'une chose très légère nous fasse autant de chagrin qu'une grande épreuve. Soyez compatissantes pour vos sœurs. Il est possible que le Seigneur vous garantisse de ses peines pour vous en donner d'autres. Celles qui nous sembleront lourdes seront légères à une autre. Aussi ne jugeons pas cela par nous-mêmes. Il faut compatir aux souffrances des autres, si petites soient-elles. Cet avis s'adresse aux âmes, dont j'ai parlé. Animées du désir de souffrir, elles trouvent toutes les croix légères. Il leur est indispensable de se rappeler le temps où elles étaient faibles et de reconnaître que si elles ne le sont plus, cela ne vient pas d'elles. Autrement, le démon pourrait refroidir leur charité et leur faire considérer une faute comme une perfection. Agissons toujours avec zèle et prudence. Car il ne dort jamais. Celles qui recherchent une plus grande perfection le doivent, plus que les autres, le démon leur tendant des pièges cachés. Si ces âmes ne sont pas sur leur garde, elles ne s'apercevront du mal qu'une fois qu'il sera commis. L'oraison est le meilleur moyen pour découvrir les pièges cachés du démon. Oh, quel excellent amour que celui d'une sœur qui porte au bien toutes ses compagnes, qui oublie son propre intérêt pour le leur, qui fait de grands progrès dans toutes les vertus et garde parfaitement sa règle. Voilà une amitié supérieure à toutes les paroles de tendresse. On ne doit jamais dire, dans ce monastère, des paroles comme celle-ci. Ma vie, mon âme, mon bien. Réservez ces paroles de tendresse pour votre divin époux. Je désire, mes filles, que vous ne soyez femmes en rien, mais que vous ressembliez à des hommes forts. Si vous accomplissez ce qui dépend de vous, le Seigneur vous rendra si viril que les hommes mêmes seront stupéfaits. Ne vous a-t-il pas tiré du néant ? Une marque d'amour qui est excellente, c'est de retirer aux sœurs et de prendre pour soi les offices les plus pénibles du monastère. C'est précisément ce que, par la bonté de Dieu, l'expérience nous a fait voir dans ce monastère. Ce serait terrible si le contraire arrivait, chez nous, qui ne sommes que 13. Si par hasard quelques paroles contre la charité étaient prononcées, qu'on y remédie aussitôt. Et si une sœur jetait le trouble, qu'on la chasse dans un autre monastère, ou au moins, qu'on l'enferme en prison. Chapitre 9. Ce chapitre traite du grand bien qu'il y aura à se détacher de tout ce qui est créé. Parlons à présent du détachement dans lequel nous devons être. S'il est parfait, il est tout pour nous. Sitôt que nous nous attachons uniquement au Créateur et que nous nous élevons au-dessus de la création, Dieu nous donne les vertus nécessaires, si bien que nous n'avons plus à lutter si nous nous efforçons dans la mesure de nos moyens d'acquérir la perfection. Le Seigneur nous défendra contre les démons et le monde entier. Mes sœurs, croyez-vous qu'un tel bien soit une petite faveur? Rendons les plus vives actions de grâce à celui qui est la source de tous les biens, de nous avoir réunis dans cet asile où notre seule occupation est le détachement du monde. J'ignore pourquoi je vous parle de cette vertu, car parmi vous, il n'y en a pas une qui ne puisse me l'enseigner. Pour l'amour de Dieu, mes sœurs, comprenez la grandeur et la faveur qu'il vous a faite en vous plaçant ici. Combien d'autres, meilleurs que moi, auraient pris cette place avec joie? J'étais loin de la mériter quand le Seigneur me l'a confiée. Mon Dieu, soyez bénis pour la grande faveur de m'avoir appelée à la vie religieuse. Vous m'avez conduite dans ce monastère où les sœurs, étant très peu nombreuses, mes fautes ne peuvent passer inaperçues. Et afin que je me surveille davantage, vous me retirez toute occasion de vous offenser. Chapitre 10. Quel bien y a-t-il à fuir les parents quand on a quitté le monde? Oh, comme nous fuirions nos proches si nous comprenions les dommages qu'ils nous causent. Nous ne devons ni ne pouvons partager leur plaisir. Les dommages provoqués par les fréquents rapports avec les parents m'effraient. Qu'avons-nous laissé du monde lorsque nous déclarons que nous avons tout laissé pour Dieu? Si nous ne sommes pas détachés du principal, les parents. Mes filles, dans cette maison, recommandons à Dieu nos parents avec un soin particulier. Puis, éloignons-les de notre pensée. Il n'est pas question ici des pères et des mères, ni des frères et des sœurs. Il est juste que nous gardions des rapports avec eux quand ils ont besoin de consolation. Nous pouvons les voir tout en gardant un détachement complet. Fiez-vous davantage à ceux qui vous aiment, uniquement pour Dieu, plutôt qu'à vos proches. Vous trouverez des pères et des frères dans ceux auxquels vous ne pensez pas. C'est de Dieu seul qu'ils attendent leur récompense en se dévouant pour vous. Quand on vous dira le contraire, ne le croyez pas. Il faudrait que j'écrive beaucoup encore si je devais expliquer tous les périls de ces attaches humaines. C'est des parents que nous avons le plus de peine à nous détacher. C'est pourquoi ceux qui partent loin de leur pays ont raison, si cela les aide à se détacher. Le détachement, c'est s'unir uniquement au bon Jésus. L'âme trouve en lui et oublie tout le reste. Chapitre 11. Ce chapitre montre comment le détachement et l'unité vont ensemble. Nous devons considérer que tout n'est que vanité et sans durée. C'est le moyen de détourner notre affection des choses de la terre. Nous devons veiller à ne pas nous attacher à une chose si minime soit-elle. Détachez-en votre pensée et dirigez-la vers Dieu. En nous appelant dans cette maison, il nous a accordé une très haute faveur. Le détachement de nous-mêmes et la lutte contre notre nature est une chose très rude. Ici, la porte s'ouvre à l'humilité véritable. Cette vertu et celle du renoncement vont ensemble. Comme deux sœurs, ne les séparons pas. Ne vous privez jamais de votre compagnie. Ô vertu souveraine, qui libérez de toutes les ruses et les pièges du démon, vous qui êtes si chère au Christ, que jamais il ne fût un seul instant sans vous, qui vous possède peut avancer. En toute sûreté, il peut lutter contre tout l'enfer, contre toutes les séductions du monde. Il ne redoute personne, le royaume des cieux est à lui. Il ne craint rien, la perte de tous les biens créés ne le préoccupe guère, ce ne serait pas pour lui un dommage. La seule chose qu'il redoute, c'est de déplaire à Dieu. Le propre de ces deux vertus est de se cacher aux yeux de celui qui les a. Il les estime tant qu'il s'efforce sans cesse de les acquérir. La première chose à faire, c'est de déraciner en nous l'amour de notre corps. Il est étonnant de voir la guerre que les religieux doivent se faire sur ce point. Mes sœurs, nous ne sommes ici non pour soigner notre santé, mais pour mourir pour Jésus-Christ. Chapitre 12 de la mortification qu'il faut acquérir dans les maladies. Je crois que se plaindre continuellement pour de légers malaises est une imperfection véritable. Il faut les supporter sans rien dire. Celles qui sont réellement malades le diront et prendront ce qui leur est utile. Ne vous plaignez pas des fatigues, des petits maux de femme. Perdez l'habitude d'en gémir, sauf au pied de Dieu. Le mauvais de notre corps, c'est que plus on le soigne, plus il est exigeant. Pensez qu'il y a un grand nombre de pauvres malades qui n'ont personne à qui se plaindre. Il y a toutes ces femmes mariées, même dans la haute société, qui souffrent les plus noirs chagrins sans consolation de personne. Elles ne se plaignent pas par crainte de leur mari. Supportons donc, entre Dieu et nous, les afflictions envoyées pour expier nos péchés. Rappelons-nous les saints ermites que nous entendons imiter. Que de douleurs supportées dans leur isolement. Ils ont souffert du froid, de la faim, du soleil, sans personne à qui s'en plaindre, sauf Dieu. Ils n'étaient pas de fer, mais aussi délicats que nous. Mes filles, le jour où nous dominerons ce misérable corps, il ne nous appartiendra plus autant. Il y aura toujours assez de sœurs pour vous assurer le nécessaire. Chapitre 13. Ce chapitre montre comment celui qui aime vraiment Dieu doit faire peu de cas de la vie et de l'honneur. En renonçant à notre volonté pour l'amour de Dieu, en la remettant aux mains d'autrui, nous faisons le principal. Soumettons-nous aussi à toutes les pénitences, jeûne, silence, clôture, office, au cœur. Pourquoi nous arrêter là et ne pas pratiquer la mortification intérieure? Il faut résister progressivement à notre volonté et à ses penchants, jusqu'à ce que le corps soit soumis à l'esprit. Le moins qu'on puisse offrir à Dieu, quand on commence à le servir, c'est de lui sacrifier sa vie. Subir le martyr pour sa cause. La vie d'un bon religieux n'est-elle pas un long martyr? Je dis qu'il est long à côté du martyr d'un moment, souffert par ceux qui ont eu la tête tranchée. Contredisons notre volonté en toutes choses. Ainsi nous parviendrons petit à petit au sommet de la perfection. Le plus difficile est fait, puisque toutes les sœurs de ce monastère marchent dans cette voie, en se stimulant mutuellement et en s'entraidant chacune d'elles, s'efforçant de devancer les autres dans la pratique du renoncement. Surveillez vos mouvements intérieurs avec attention, surtout s'ils sont provoqués par les prééminences. Je suis plus ancienne en religion, je suis plus vieille, j'ai davantage travaillé, et on a plus d'égards pour telle sœur que pour moi. Ne vous arrêtez pas à ces pensées, source de grands maux. Pratiquez le renoncement et l'humilité. Chapitre 14. Ce chapitre continue à traiter de la mortification, montrant comment il faut fuir le point d'honneur et les principes du monde pour arriver à la véritable sagesse. Ou nous sommes les épouses du grand roi, ou nous ne le sommes pas. Si nous le sommes, est-ce qu'une femme d'honneur ne prend pas à sa part les outrages faits à son mari? Puisque honneur et déshonneur sont communs entre eux. Si nous voulons un jour entrer dans le royaume de notre époux, ce serait une folie de ne pas vouloir partager ses souffrances et ses affronts. Si l'une d'entre nous se sent moins estimée, elle doit se considérer comme la plus heureuse. Efforçons-nous de rappeler la profonde humilité de la Très Sainte Vierge dont nous portons la vie, car l'humilité que nous croyons avoir est loin de convenir aux dignes filles d'une telle mère et aux dignes épouses d'un tel époux. Si tant est qu'un ciel puisse exister sur la terre, cette maison en est un, mais uniquement pour les âmes qui s'efforcent de contenter seulement Dieu et que leur propre satisfaction ne préoccupe pas. Chapitre 14. Où l'on montre qu'il ne faut jamais admettre à la profession une personne dont les dispositions intérieures sont opposées à ce qui vient d'être dit. Lorsqu'une personne désire entrer chez nous, il faut examiner quel but elle se propose. Si ce n'est pas pour se tirer d'embarras, et si elle jouit d'un bon jugement. Si elle en manque, il ne faut la recevoir à aucun prix. Elle ne comprendrait pas les conseils des sœurs qui rechercheraient à la conduire dans une voie plus parfaite. Une personne ayant un bon jugement s'attache fortement au bien, car elle voit que c'est le plus sûr. Elle pourra donner un bon conseil aux autres, et être utile dans de nombreuses circonstances. Comme beaucoup parlent bien et comprennent mal, on ne voit pas tout de suite le manque de bon sens. D'autres, parlant peu et assez mal, seront capables de grands biens. Chez certaines âmes, la simplicité s'unit à la sainteté. Si elles s'entendent peu aux usages et aux affaires du monde, elles sont très instruites dans l'art de parler avec Dieu. C'est pourquoi il faut bien connaître les personnes avant de les recevoir et de les admettre à la profession. Faites-leur comprendre, une fois pour toutes, que vous gardez la liberté de les renvoyer, qu'il y a dans un monastère des austérités que tout le monde ne peut supporter. Chapitre 16. Quel grand bien il y a à ne pas s'excuser quand on se voit condamné sans être coupable. Quand on est condamné sans motif, c'est une grande humilité de se taire, car on suit les traces du Sauveur, qui s'est chargé de toutes nos fautes. Si vous cherchiez à vous excuser, vous n'en retireriez aucun fruit. Celui qui a une humilité véritable désire sincèrement être méprisé, persécuté, condamné sans raison. Mes sœurs, que ces solides vertus soient l'objet de vos études et de vos pénitences. Il faut considérer que nous ne sommes jamais accusés sans raison, car nous sommes toujours pleines de fautes. Le juste tombe 7 fois par jour. Ô Monseigneur, quand je vois tous les tourments que vous avez soufferts quand vous étiez loin de les mériter, que dire de moi? Où avais-je l'esprit quand je ne désirais pas la souffrance? Où en suis-je lorsque je me disculpe? Si je possède quelques dons, je ne les ai reçus que de vos mains, ô mon bien. Appliquons-nous à prêcher par les œuvres, puisque nous ne pouvons le faire par la parole. Le Christ n'aura pas la même rigueur pour nous que pour lui-même, car il a permis au bon larron d'élever la voix en sa faveur lorsqu'il a été crucifié.
See her. على الدوام مدى السلام.